C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir le patron de la marque Asphalt depuis bientôt 7 ans. Il bouscule le monde de la sape. Sa mission, créer des vêtements qui vont passer l'épreuve du temps. Ses ennemis, la fast fashion. Asphalt, c'est aussi un cas d'école de la marque sociale, hein, une marque qui s'est construite avec ses communautés en ligne et qui propose aujourd'hui une stratégie social media de très très haute volée. Bonjour William Ovet, je suis très content de t'accueillir au micro du Super Daily.
Salut Thibaut, bah écoute, moi aussi très content d'être là et...
T'as vu, je t'ai fait une intro façon radio là. Hein.
Ah, franchement, elle était belle, hein. Elle était belle. Non, et puis le pitch de la marque était très bon, enfin c'était parfait.
Parfait. Alors, on a essayé par tous les moyens de te faire venir ici dans nos très beaux studios à Lyon, mais ça a été compliqué, agenda difficile à croiser. Et du coup, tu nous parles depuis Bordeaux, c'est ça?
Ouais, exactement, depuis très exactement ma chambre à Bordeaux.
Et c'est très...
Et ouais, on est installé à Bordeaux depuis 6 ans maintenant, avec ma femme et famille maintenant, parce qu'on a 2 enfants. Et l'équipe m'a rejoint il y a 3 ans et demi, je crois, un truc comme ça à Bordeaux. On est tous à Bordeaux maintenant.
Ouais, et donc Asphalt, c'est donc cette marque de vêtements née en 2016, c'est ça?
Ouais, exactement.
Voilà, installé désormais à Bordeaux. Et en 7 ans, eh ben, vous avez imposé une sorte de nouveau modèle, hein, si je puis dire, avec l'une des grosses spécificités de la marque Asphalt, c'est de fonctionner sur le principe de la précommande. Voilà, vous annoncez le lancement d'un futur chino, je le commande et je le reçois quoi, en général 6 à 8 semaines plus tard.
Hein. Ouais, exactement. Même pour être très honnête, plutôt 8 à 10, ouais.
Voilà. À quoi ça sert cette histoire de précommande?
Écoute, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour remplir notre mission. La mission depuis le départ, c'est d'essayer de trouver un moyen de rendre la qualité, la durabilité accessible. Moi, j'avais une première expérience dans le prêt-à-porter avant. J'avais une marque de fringues déjà, une marque de pull de très bonne qualité fabriquée en Italie qu'on distribuait et qu'on produisait de manière tout à fait classique avec un réseau de revendeurs, etc. Et ce que je voyais, c'est que l'écart entre le coût d'achat en sortie d'atelier et le prix de vente finale à un client était énorme parce qu'en fait, il fallait faire bouffer plein d'intermédiaires au milieu, beaucoup de frais cachés dans du stockage, des invendus, des soldes, etc. Et donc voilà, donc on a essayé de réfléchir à un modèle plus direct, avec moins de pertes, plus pur, pour essayer de trouver un moyen justement de vendre pas trop cher un vêtement qui coûte cher à fabriquer. Et la précommande, en ça, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée.
Aujourd'hui, il y a pas mal d'autres marques hein, qui marchent sur ce principe-là. C'est même devenu une sorte de modèle pour les petits créateurs hein, qu'on voit émerger sur Insta chaque jour. Mais en 2016, là-dessus, vous êtes vraiment des précurseurs. Elle t'est venue d'où, cette idée de la précommande? J'ai l'impression qu'en 2016, il y avait peut-être Made.com qui faisait ça sur le meuble. Encore que, je suis pas sûr, vous étiez pas nombreux. D'où elle t'est venue l'idée?
Ouais, alors on n'était pas nombreux, effectivement. L'idée, je pense qu'elle est venue d'un mélange de plusieurs choses. Elle est venue de manière assez organique parce qu'en fait, dans la précédente marque que j'avais, 6 et 7, on avait nos collections qui étaient prêtes 9 mois à l'avance parce qu'on les présentait aux revendeurs multimarques. Donc concrètement, nous, les collections d'hiver, on les vendait en janvier aux boutiques qui passaient des commandes et on livrait les boutiques, tu vois, en août pour qu'ils aient la cam en vente de septembre à décembre. Et en fait, ce catalogue qu'on avait, on a commencé à un moment à le montrer aussi à des copains en disant « bah tiens, si tu veux, là en ce moment, j'ai mes revendeurs qui passent des commandes à moitié prix. Si tu me passes la commande maintenant aussi, je te le fais à moitié prix. » Et en fait, ça marchait super bien. On avait plein de potes qui commandaient et tout. On s'est dit « c'est marrant, les gens sont prêts à attendre 9 mois et tout. » Et puis en parallèle de ça, il y avait une marque qui s'était lancée aux States, toute petite, hein, et qui est encore toute petite aujourd'hui, qui s'appelle Gustin, qui avait fait une campagne de crowdfunding sur Kickstarter en vendant un jean. On avait trouvé ça intéressant. Il y avait justement les plateformes de crowdfunding qui commençaient à exister. Donc en fait, tu vois, il y avait un mix de pas mal de choses. Et nous, effectivement, la particularité, c'est qu'on s'est dit qu'on n'allait pas seulement en faire un événement pour lancer la marque, mais qu'on allait en faire vraiment notre modèle économique, tu vois, de long terme, quoi. Et c'était un peu un saut dans le vide, parce qu'effectivement, quasiment personne ne faisait ça.
Alors, 2 mois et demi pour recevoir son chino, ça fait long. clairement. Comment est-ce qu'on gère l'attente des clients? Déjà, est-ce qu'il y a une attente des clients? Et comment on gère ça?
Ouais, écoute, c'est clair hein, que la précommande, c'est magnifique en tout point. Il y a un seul défaut dans la précommande, c'est le client qui le paye, ce défaut, c'est l'attente. Donc en fait, ça met une pression tout de suite à la marque parce qu'en fait, si ton client, tu veux le faire attendre 2 mois et demi, t'as intérêt à envoyer du très très lourd dans l'exécution de ton produit, de ton positionnement prix, de ton marketing. Enfin, il faut que tout soit parfait, tu vois. Donc en fait, ça nous a poussé vraiment à ça. Et après, c'est cohérent cette attente avec tout le message qu'a la marque parce que nous, ce qu'on dit, c'est achète un jean de très très bonne qualité que tu vas garder des années. Et finalement, du coup, attendre 2 mois un jean que tu vas garder des années, c'est peut-être pas si grave. Donc, comment on le gère? Écoute, le client, on essaye de le nourrir un petit peu dans cette phase d'attente en lui donnant des news sur sa production. On le fait pas encore suffisamment bien. Pourtant, tu vois, ça fait 6 ans qu'on le fait, mais on peut encore s'améliorer là-dessus. Mais ouais, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que cette attente, elle soit assez agréable. Ce qui est assez surprenant et le phénomène qu'on a constaté dès le départ, c'est que finalement, les clients, tu vois, une fois qu'ils ont sauté le pas, cette attente, ils le vivent plutôt comme un moment très particulier et très privilégié, un moment dont ils se souviennent. Quand ils reçoivent leur cadeau, du coup, il y a un lien très fort qui se crée avec le vêtement. Et en fait, je fais souvent ce parallèle avec IKEA, tu vois, quand tu penses à IKEA, quand ils se sont lancés, j'imagine que tout le monde devait leur dire, mais les mecs, vous êtes des malades, jamais personne va acheter un meuble qui va devoir monter chez lui, tu vois, vous êtes des oufs. Et en fait, finalement, ça marche, c'est très bien. Et les gens ont une affection particulière avec leur meuble IKEA parce qu'ils l'ont monté eux-mêmes. Il y a un peu ce même phénomène avec le vêtement asphalte. Tu l'as tellement attendu qu'en fait, tu vois, tu peux pas le traiter comme un jean lambda. Tu vas l'aimer un peu plus que ton jean.
Ouais, je comprends. Alors, est-ce que tu as la sensation depuis 2016 qu'il y a une sorte d'évolution dans les réflexes d'actes d'achat? Est-ce qu'on est tous en train de devenir un peu moins compulsifs ou alors non, il faut continuer à faire de la pédagogie sur son marché?
Il y a une lame de fond, tu vois, une tendance de fond, c'est sûr que ça évolue. Après, on va pas se mentir, c'est surtout le cas pour des CSP+, voire plus, tu vois. C'est pas encore mainstream comme manière de penser. Mais la tendance de fond, en tout cas, nous, on y croit dur comme fer et on espère que ça sera ça, c'est que l'hyperconsommation, c'est fini, tu vois. C'était les 30, 40 dernières années. Et là, on rentre dans une nouvelle phase de consommation beaucoup plus raisonnable, raisonnée et tout. C'est que le début de ce phénomène-là. Donc, nous, c'est la vision qu'on porte. Et du coup, de la même manière que l'hyperconsommation a donné naissance à des géants de la mode que sont la fast fashion, bah, la nouvelle tendance de consommation, elle va donner naissance à des géants de la mode, dont on espère Asphalt, qui seront des gens qui auront réussi à justement prendre cette vague-là et créer un nouveau modèle de consommation.
William, j'aimerais qu'on parle évidemment stratégie social media, hein, parce que la marque Asphalt, elle est à peu près partout. Mais c'est surtout sur Instagram qu'elle semble s'illustrer. Alors, quelques chiffres hein, pour ceux qui ne connaissent pas sur Instagram. Asphalt, c'est 87 000 abonnés sur son compte Asphalt Homme. Il y a aussi un compte Asphalt Femme, on en reparlera un petit peu plus tard. 28 000 abonnés, c'est très solide. Il y a beaucoup de choses à dire sur votre stratégie de contenu. Et j'aimerais qu'on commence par discuter de co-construction, parce que c'est le premier point clé sur lequel est basé votre business, hein, c'est qu'il repose sur la co-construction avec vos clients. Hein. Quand on suit la marque de près, eh ben, on est super souvent sollicité pour répondre à des questionnaires. Voilà. Quelle couleur je souhaite pour la chemise idéale? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans votre prochain showroom à Paris? Et chez Asphalt, ce processus de co-création, il est vraiment poussé très très loin. Tu sais, nous, on accompagne un certain nombre de marques qui se posent des questions sur la co-création et qui en sont co-prémis. Chez vous, vous êtes déjà un cran plus loin et ces questions, elles sont partout. Elles sont dans les stories Instagram, sur votre site internet. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents endroits où vous questionnez vos clients?
Ouais, ils sont nombreux, effectivement. La co-création, c'est au cœur du réacteur. Depuis le jour 1, c'est venu de manière totalement organique. Quand on a commencé à bosser sur le premier produit, on s'est dit, OK, moi, je disais tout à l'heure, j'avais une marque de pull avant, donc on avait des grosses collections de pulls. Et là, la vision avec Asphalt, c'est une vision totalement différente. C'est de se dire, on va faire un vestiaire complet, mais du coup, par vertical, tu vois, il va y avoir peu d'offres. Donc, peu de pulls, peu de jeans, etc. Donc, au début, on s'est dit, on va faire un pull et on veut que ce soit le meilleur pull qu'on ait jamais fait, tu vois, le pull parfait. Et très rapidement, on s'est dit, attends, mais il y a quoi de mieux pour faire un pull parfait que de demander aux gens qu'est-ce qu'un pull parfait pour eux? Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on l'a fait au début. C'est vraiment, pour co-construire avec les clients un cahier des charges. Et en fait, on a vu que c'était devenu une arme extraordinaire pour effectivement construire un cahier des charges très propre pour le produit. mais aussi une arme extrêmement forte pour engager les gens, pour récupérer des leads, tu vois. Donc ça a vraiment plein de vertus. Donc naturellement au début c'est venu sur effectivement les questionnaires de co-création du vêtement, aidez-nous à créer le pull parfait. Ensuite on est allé directement, je pense que celui qu'on a créé après c'est le questionnaire de satisfaction, c'est ok, t'as acheté ton pull parfait, ça fait deux mois que tu le portes, dis-moi ce que t'en penses et dis-moi comment je peux l'améliorer l'année prochaine. Donc là en fait ça fait partie de la co-construction aussi, parce que finalement le produit on l'itère chaque année, et ça c'est une grosse valeur ajoutée d'Asphalt sur le long terme, c'est que nos produits ils s'améliorent d'année en année et ils se spécifient d'année en année par rapport à la concurrence, tu vois. Donc ça c'est le deuxième qui est arrivé, et ensuite effectivement on a commencé, ensuite on a rajouté le questionnaire qu'on appelle nous questionnaire plan de co, voilà, pardon, le plan de collection. Donc c'est avant même de dire ok, aide-moi à faire un pull parfait, on va dire au client ok, sur quel produit vous voulez qu'on bosse demain. Donc là on leur liste, est-ce que c'est baskets, chaussettes, n'importe quoi. Donc en fait les clients nous aident à savoir quel produit il faut faire, ensuite sur ce produit savoir comment le faire mieux, une fois qu'ils l'ont reçu savoir comment l'améliorer, et puis du coup bah tu vois ça marche tellement bien, c'est tellement intéressant en tout point de vue de faire ça, que bah effectivement maintenant même quand on va faire un pop-up store on dit à nos clients bah les gars on va faire un pop-up store, qu'est-ce que vous voulez dans ce pop-up store, tu vois. Donc on le fait surtout maintenant.
Et du coup, en interne, vous devez avoir une très grosse phase de frappe hein, sur l'analyse de données. On a l'impression que vraiment c'est piloté de main de maître derrière. Entre l'étude des réponses au questionnaire, l'analyse des commentaires, hein, j'imagine que vous êtes aussi très attentif là-dessus, de ce qui se passe en stories, etc. C'est qui gère ça chez toi ? Est-ce que ce sont tes équipes social media, ou est-ce que tu as une équipe dédiée à l'étude et à l'analyse des data ?
Écoute, bonne question. Au début, c'était géré surtout par l'équipe produit, en fait, parce que c'est eux les premiers concernés. Donc, on utilise, nous, Typeform comme outil de questionnaire, et l'équipe produit faisait des extracts des Typeform, analysait les réponses et améliorait les produits comme ça. Ensuite, effectivement, au sein de l'équipe produit, on a monté une petite équipe co-création qui avait le job d'effectivement planifier tous ces envois de questionnaires, analyser les réponses et tout. On utilise depuis peu un outil qui s'appelle Cobaye, qui est hyper pratique, qui te permet d'analyser en fait les réponses quali, tu vois, parce que les réponses quanti, c'est facile. En fait, Typeform, il te les sort direct, il dit, bah voilà, la satisfaction moyenne sur la résistance de ton chino, c'est 8.3 sur 10. Bon, bah, il n'y a pas d'analyse à faire. Par contre, à la question ouverte, qu'est-ce que je peux améliorer sur ce chino ? Bah là, tu as des pavés et tout. Et donc, on a un outil qui s'appelle Cobaye qui vient, c'est une IA qui vient, tu vois, nous mapper un peu les mots-clés utilisés. Et donc, on a toujours effectivement une personne qui est dédiée à ça. Et même si maintenant, à nouveau, on essaye de resplitter un petit peu ce travail d'analyse au sein des différents pôles, parce que finalement, il faut que les gens qui travaillent sur le produit soient aussi, tu vois, très proches de cette data et de ces input quali. Donc voilà comment c'est fait. Et sur la partie social media, effectivement, bah, pareil, hein, les outils nous ressortent de la data brute. Et puis, de temps en temps, c'est soit l'équipe co-création, soit la personne en social media, soit la personne directement au produit qui a demandé à ce qu'on poste ce questionnaire, qui va faire une petite analyse rapide des 50, 100 commentaires sur le post. Donc ça dépend un petit peu, mais on a quand même encore aujourd'hui une personne dédiée à cette analyse, quoi.
Ouais, c'est ça. Hein. Et j'ai une question un petit peu plus technique, on va dire. C'est quelle pondération vous apportez aux réponses de vos clients ? Je m'explique. Est-ce que c'est toujours la majorité qui l'emporte, ou parfois, eh bien, il y a des décisions de marque qui sont prises unilatéralement, ou en tout cas parce qu'elles sont stratégiques, elles sont tactiques. Et non, là-dessus, on n'en démordra pas. Vu de l'extérieur, on a l'impression que vous êtes dans une construction 100% transparente, co-construction maximale. Mais j'imagine quand même qu'il y a des décisions qui te reviennent à toi, William.
Écoute, à nouveau, excellente question qu'on aurait peut-être dû se poser plus tôt dans l'histoire d'Asphalt. parce que, au début, tu vois, un peu bêtement en fait, hein, on se disait, il faut absolument toujours suivre ce que dit le client. La réalité, c'est qu'effectivement, tu vois, avec les années, tu te rends compte que, en fonction de si dans ton questionnaire, tu as mis une photo, un dessin, un montage photo, tu n'auras pas les mêmes réponses, forcément. Et puis, se projeter sur un dessin ou même sur une photo, c'est pas facile, tu vois. C'est aussi le job des personnes en interne. Donc, en fait, on a changé ça il y a, je pense, 12 mois, tu vois. C'est assez récent. On s'est dit, en fait, les questionnaires et la communauté est là pour nous aider à faire le meilleur produit possible. Mais à la fin, c'est pas eux qui ont la main sur la décision. C'est-à-dire que la main sur la décision, elle doit appartenir aux gens de l'équipe produit. Mais simplement, pour prendre la décision, ils ont toujours l'input des clients, ils ont aussi l'input technique de l'usine, ils ont mon input à moi qui va avoir une bonne connaissance de nos clients et de ce qui a marché, l'historique de la boîte et tout. Et c'est fort de toutes ces informations-là que nous, on doit prendre des décisions, tu vois. Ouais. Mais on est moins bête et méchant qu'au début. On disait, attends, les clients ont fait 55% pour ça. C'est sûr, on le fait. Ouais, mais attends, les clients, ils ont peut-être pas conscience que ce pour quoi ils ont voté, ça va donner aussi un prix 20 euros plus cher. Mmh. Et est-ce qu'ils sont prêts à mettre ces 20 euros? Donc, en fait, tu vois, c'est tellement complexe que finalement, voilà, maintenant, c'est très clair pour les équipes. Les clients sont un super outil pour nous aider à prendre la meilleure décision, mais à la fin, la décision nous appartient.
Ouais, alors j'ai passé un peu de temps hein, sur vos réseaux sociaux et notamment sur votre compte Instagram, et j'ai vu que là-dessus aussi, de ce côté-là aussi, il y avait une grosse culture de la relation hein, client, du community management pur et dur. Hein. C'est simple, j'ai l'impression que ton CM fait un travail de super-héros, hein, 100% de réponse. J'ai regardé, hein, je l'ai passé au crible les derniers posts, donc je ne sais pas si c'est si on peut le nommer, mais en tout cas on le félicite.
Tanguy,
bravo,
ouais, bien sûr.
Bravo Tanguy. À quoi ça sert quand on est asphalte de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux?
Écoute, ça sert à ça, à ce que tu me dises que c'est génial et que ça fait 100%, tu vois, ça fait plaisir. Non, ça sert à ouais, à pousser le tu vois l'authenticité au bout du truc, quoi. C'est-à-dire que c'est impossible pour nous de répondre typiquement à toutes les personnes qui participent au questionnaire. Et d'ailleurs, c'est sans doute assez problématique. Je pense que ça frustre certains clients qui, de temps en temps, envoient un pavé, tu vois, genre, comment je peux améliorer mon chino? T'as des clients, ils passent une demi-heure. Hein. Mmh. Et en fait, on va pas leur répondre en one-one parce que c'est juste impossible. Sur les réseaux sociaux, pour le coup, effectivement, là, le client, la personne qui commente, elle s'attend un peu plus à être dans un dialogue. Donc, voilà, et bah, c'est on leur doit ça, tu vois, ils prennent le temps de nous répondre, de temps en temps de nous faire chier, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est une discussion, on est dans ce truc très open book avec nos clients, tu vois, on essaie d'être le plus transparent et de partager un maximum de choses avec eux, ça fait partie aussi de l'humilité un peu de la marque qu'on aime bien, tu vois, cette vulnérabilité de parler de aussi ses erreurs et tout. Non, c'est très cohérent avec la marque et il se trouve que Tanguy en plus est très bon là-dedans, adore faire ça. Donc c'est chouette, non, on est très très content.
Alors Asphalt, c'est aussi une tonalité de marque, hein, très assumée. C'est peut-être même une des signatures de la marque Asphalt aujourd'hui. Vous êtes fait connaître pour ce ton très bold, parfois même un peu viril, hein, il y a quelques années de ça en arrière. Je pense notamment à la dernière vidéo, une vidéo reel que j'ai trouvée sur Instagram pour le chino costaud. Super vidéo, c'est très très bien écrit, très bien réalisé. Est-ce que vous avez des spécialistes de la CR en interne? Comment est-ce que vous travaillez cette tonalité?
Écoute, alors la naissance de la tonalité, c'est beaucoup de taf de Rodolphe, qui est mon associé depuis le jour 1 sur Asphalt, qui a monté toute l'équipe marketing, qui aujourd'hui s'occupe de la brand chez Asphalt. Donc, c'est lui qui est garant effectivement de la cohérence du contenu par rapport à la marque. C'est lui qui a écrit la plateforme de marque et tout. Et Rodolphe et moi, on a beaucoup, beaucoup travaillé tous les deux sur la création de ce tone of voice. Tu vois, c'était même un peu absurde. J'ai le souvenir avant le lancement de la marque, on passe beaucoup de temps à écrire la page, la mission, tu vois. Mais c'était tellement important pour nous de nous mettre d'accord vraiment à la virgule près sur comment on allait pitcher en quelques paragraphes la marque, parce qu'une fois que tu as fait ça, logiquement, tu vois, tout découle après. Donc, on y a passé beaucoup de temps. Et c'est un ton, effectivement, qui a fait partie des facteurs clés de succès de la marque, en tout cas de la manière de se différencier. Et à nouveau, en fait, c'est la réalité, c'est que c'est très organique, c'est-à-dire que ça nous ressemble beaucoup à Rodolphe et moi. C'est vraiment c'est un écrit qui est assez parlé, et donc Rodolphe principalement a participé à créer ce contenu ce tone of voice et à faire en sorte qu'il soit présent sur tous nos contenus. Et puis après, tous les deux, pendant longtemps, on a coécrit des articles, tu vois, de fond sur où va la marque, où est-ce qu'on en est, etc. Donc moi, j'y ai aussi beaucoup participé et j'adore ça. Et aujourd'hui, Rodolphe, il continue de faire de la rédac. On a un free qui s'appelle Lucas, qui est trop fort, avec qui on bosse depuis des années, qui a magnifiquement pris en main ce ton et qui même maintenant nous écrase, je pense, dans la qualité de son édito. C'est le roi de la punchline. Mais c'est pas évident, tu vois, de trouver des frics qui sont capables de bien prendre en compte ce tone of voice.
Ce que Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que souvent, c'est complexe la tonalité de marque. Hein. C'est clé. Toutes les marques souhaitent trouver une tonalité. Comme tu le dis, au début, elles sont très enthousiastes à la construction de leur marque, à l'émission, quelle tonalité on va bosser, notre personnalité de marque, qu'est-ce que ça va être. On joue au jeu des portraits chinois, on va façonner notre identité. Et puis, une fois qu'on y est, eh ben, on retombe très vite quand même sur du corporate un peu chiant. Vous, vous maintenez dans le ton cette tonalité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes jamais très loin, ou Rodolphe, si je comprends bien, jamais très loin de, des contenus qui sont produits. Est-ce que c'est ça la, la clé pour durer sur une tonalité?
Écoute, ouais, il y a une réalité, c'est qu'il faut qu'effectivement il y ait des garde-fous, tu vois, et en l'occurrence c'est Rodolphe, qui soit pas trop loin du contenu. Et après, après franchement, tu vois, typiquement avec Lucas, qui est notre rédac depuis des années, il bosse en full autonomie, tu vois. Donc de temps en temps, on a des points avec lui, on lui donne du feedback. Mais donc ouais, je pense qu'il y a un enjeu à effectivement, dans un premier temps, en tout cas, pas lâcher ce contenu trop vite, pas lâcher ce tone of voice trop vite. Donc c'est pour ça que, tu vois, pendant des années, moi compris, je passais du temps à faire de la rédac. Et Rodolphe, lui, pendant encore plus d'années. Et ensuite, effectivement, la balle peut se passer qu'une fois qu'on se sent pleinement en confiance avec un rédacteur, quoi. Mais une fois que c'est le cas, franchement, c'est possible de lâcher le bébé. Mais il faut vraiment trouver les bonnes personnes.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette tonalité, elle est transférée très habilement sur les équipes, hein, parce que Asphalt, vous travaillez très bien l'incarnation sur, et notamment sur Instagram. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément du patron, mais des équipes, et ça m'intéresse, parce que ici j'ai reçu à ce micro là Guillaume Gibaud du Slip Français, et bim, il incarne la marque, hein, oui. C'est lui frontline. J'ai eu Horace, Marc Briand de Horace, pareil, il incarne frontline. Là, vous, quand vous sortez un nouveau produit, eh ben, vous avez souvent la petite vidéo d'un membre de l'équipe qui raconte face caméra le travail de conception. Ou encore, il y a une série très fun actuellement sur l'équipe qui réagit aux commentaires des clients sur le nouveau boxer en Cotobion, etc. Ouais. À quoi ça sert une marque qui est incarnée par ses salariés?
Écoute, ça sert à créer de la proximité, tout simplement, tu vois, à humaniser le truc. Je suis un fan de la première heure de Michel Augustin. Moi, j'ai toujours été très sensible à, en fait, ce type de marketing qui, en fait, à nouveau, je vais réutiliser ce terme, mais assez organique, tu vois. C'est...
Ouais. On retrouve l'ADN. C'est marrant que tu parles d'eux parce qu'on retrouve cet ADN un peu de tribu, de famille.
Ouais, carrément. Et tu vois, Augustin, que je n'ai jamais rencontré, le fondateur de Michel Augustin, je l'avais entendu dire dans un podcast que lui, pendant longtemps, il n'avait pas vraiment eu de stratégie marketing ou de plateforme de marque et tout, alors qu'en fait, tout le monde te dirait que c'est les rois du marketing, tu vois. Mais voilà, moi, j'aime bien ce truc très organique. Finalement, ce qu'on veut faire avec Asphalt, c'est raconter l'histoire de nos produits, raconter ce qu'on fait. Et il y a très peu de boîtes qui le font, tu vois. Ça donne, ça humanise, ça crée un lien très fort, forcément. C'est assez clivant, hein. Il y a des gens qui aiment pas ça, surtout dans la mode, hein. Il y a des gens qui aiment, tu vois. Et généralement, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que les gens les plus pointus, donc nous, en l'occurrence, dans la mode, les gens les plus pointus de la mode, ils apprécient pas ce type de marketing parce que pour eux, c'est pas assez noble ou pointu, justement, tu vois. Mais nous, c'est pas notre vision. Nous, notre vision, c'est d'être ultra mainstream, en fait, tu vois. C'est d'habiller tout type de gens et tout. Donc, ça nous va très bien d'avoir ce truc très, très humain. Vulnérable aussi, à nouveau, je réutilise ce terme parce que t'as des gens qui sont plus ou moins à l'aise devant la caméra, plus ou moins bons. Et c'est, tu vois, y a parfois on se dit, c'est peut-être.
Ils sont très bons, on a l'impression qu'ils ont fait du media training, tes équipes. ces vidéos, elles sont produites en interne? Ça se passe comment? Vous avez une petite force de production de contenu en interne?
Ouais, tout ça, c'est produit en interne. Maintenant, on a. Pendant des années, on avait des freelances avec qui on bossait, tu vois. Mais en fait, ça a toujours été, en tout cas, toute la partie script, concept, ça a toujours été fait en interne. Et après, la partie prise de vue, montage, pendant un moment, c'était des freelances, et maintenant, on le fait de plus en plus en interne.
Ok. Alors, figure-toi, William, que chez nous, chez Supernatif, on a un ambassadeur de ta marque, Asphalt. Il s'appelle Aurélien. Et il m'a raconté le processus de recrutement. Voilà, j'ai trouvé ça assez fou. Vous recrutez des ambassadeurs Instagram en story. Voilà, alors il m'expliquait qu'il faut proposer son profil via un petit formulaire en story et puis tu reçois un jean gratuitement, bim, cadeau, et en contrepartie on te demande d'en parler en post et en story sur Instagram. Quel est l'objectif pour Asphalt de ces ambassadeurs?
Ouais, écoute, ça fait partie des tests qu'on a fait à plusieurs reprises. L'objectif c'était effectivement de trouver un peu une alternative à l'influence un peu traditionnelle, tu vois, et d'aller recruter voilà des gens qui finalement sont, tu vois, des clients, des gens qui aiment bien la marque et qui potentiellement sont les meilleurs ambassadeurs même s'ils n'ont pas 150 000 followers sur Instagram. Donc c'était ça l'objectif, tu vois, c'était d'essayer de trouver une stratégie d'influence qui soit un peu plus vraie et authentique.
Ouais, est-ce que vous arrivez à mesurer ces stratégies de micro-influence?
Ouais, et d'ailleurs pour être très honnête, en tout cas sur l'homme, ça fonctionne pas extrêmement bien. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Ça nous arrive de le refaire de temps en temps sur des gros produits, tu vois, pour aussi obtenir des feedbacks sur des produits, ce genre de choses. Sur la femme, ça fonctionne mieux, mais ça fait pas très longtemps qu'on fait de la femme, donc on n'a pas encore beaucoup de recul. Mais globalement, l'influence fonctionne mieux sur la femme pour l'instant, de notre courte expérience, que sur l'homme.
J'aimerais bien justement qu'on parle d'Asphalt Femme, parce qu'initialement, Asphalt, c'est une marque qui s'est fait connaître pour être une marque de gars pour les gars. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en avais. Ouais. Mais en 2021, surprise générale, vous lancez, enfin, pour moi, de mon côté de l'écran, Asphalt Femme. Voilà, ouais. Ça se passe bien, Asphalt Femme.
Ouais, écoute, ça se passe bien. Effectivement, très, très vite, après le lancement d'Asphalt, autour de nous, les gens disent « Attends, il faut que vous fassiez de la femme, etc. » Nous, c'est vrai qu'on avait eu, tu vois, tu as utilisé ce mot viril tout à l'heure, on avait au départ effectivement ce truc de, tu vois, du gars sur sa bécane avec sa grosse barbe, etc. Tu vois, c'est des images qui nous parlaient et tout. Donc, on avait ce positionnement-là et donc on avait envisagé le fait que potentiellement, si on ferait de la femme un jour, on ferait peut-être une autre marque. Et puis finalement, 4-5 ans après le lancement, au moment où on se dit, ah tiens, bon, c'est aussi à partir du moment où on a bien affiné à quoi on servait, tu vois. Et au fil des années, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous, notre job, ça allait être de créer une alternative à la fast fashion. Et quand t'as ça comme mission et comme volonté, tu peux pas dire, vas-y, je vais le faire pour la moitié des gens, tu vois. Il reste l'autre moitié. Qu'est-ce que tu fais de l'autre moitié? Donc on se dit, ok, il faut qu'on fasse de la femme. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, ce positionnement un peu viril et tout, franchement, il est un peu désuet. Il faut le faire évoluer. Et en plus de ça, on se dit, si on veut vraiment construire une marque qui a de l'impact dans les prochaines décennies, c'est quand même beaucoup plus puissant et potentiellement plus simple d'en créer une seule, tu vois, plutôt que de diluer le message et d'essayer de créer 2, 3, 4, 5 marques. Donc on se dit, Asphalt doit évoluer un petit peu et on va lancer la ligne femme sous le nom Asphalt. Et donc c'est ce qu'on a fait en 2021. Et le lancement a été vraiment très très bon. Le premier produit a cartonné. Et ensuite les 3-4 premiers produits ont très bien marché. On a eu un moment un petit peu plus difficile dans le courant de l'année 22 où on a commencé à faire un petit peu des tests, on s'est un petit peu cherché sur le côté image en fait, et même sur le produit d'ailleurs, sur le stylisme. La réalité c'est qu'on avait quand même une culture en interne de faire des vêtements de mecs et de marketer pour les mecs, et donc tu vois, ça peut pas se faire en un claquement de doigts d'apprendre à avoir une exécution parfaite sur faire des vêtements de femmes et bien les marketer aussi. Donc on a essuyé un peu les plâtres en 2022, on a fait quelques erreurs, on s'est bien remis en selle à la fin de l'année. Et là, ouais, ça marche de mieux en mieux. Et tu vois, là, on enregistre le 22 mars 2023. On a lancé hier le 21 mars 2023 notre jean femme et ça a cartonné. On en a vendu 1000 en un jour. On va en vendre sans doute entre 5 et 10 000, tu vois, en 3 mois. Donc ça commence à très très bien prendre et on est super content.
Ouais, alors là, tactiquement, côté social media, vous avez opté pour la création d'un deuxième compte. Donc c'est @asphalt_femme. J'imagine que c'est une histoire de base d'audience. Est-ce que c'est exclusivement ça ou aussi de persona et de tonalité de marque?
Non, c'est pas une question de tonalité parce que les deux tonalités sont vraiment les mêmes. C'est vraiment une question de flux d'informations, en fait. Au lancement de la femme, on se dit, ok, on a envie, tu vois, de créer un truc from scratch, de sentir que c'est un lancement, une émulation, et du coup de communiquer vraiment beaucoup sur cette page et tout. Et en fait, très factuellement, sur notre compte homme, on n'avait pas beaucoup de bandes passantes pour ajouter des posts sur la femme. Et puis les hommes, ça n'allait pas trop les intéresser. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de se dire, finalement, on a des hommes qui nous suivent principalement pour acheter des fringues pour hommes. Et comme on est dans un business de lancement où chaque semaine il y a des nouveaux produits qui sont lancés, bah en fait, tu vois, si chaque semaine t'as un compte où t'as l'homme, la femme et tout, c'est finalement t'as la moitié de l'information qui t'intéresse que très moyennement quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une histoire de flux d'information, de se dire bah de la même manière qu'on a des femmes qui s'inscrivent, qui peuvent s'inscrire que à la newsletter femme ou homme ou les deux, bah pareil sur Insta en fait, si t'as envie de suivre qu'un seul des deux comptes parce que t'es intéressé que par une seule des deux lignes, tu le fais. Ça nous a paru plus simple de le faire comme ça et on est très content de ça. Tu vois, là, ça fait 18 mois, on est très content de ça.
Donc, c'est de la segmentation, quoi.
C'est de la segmentation et puis de temps en temps, on a quand même des cross-posts quand on fait des posts brand, comme on les appelle. Tu vois, des posts qui parlent de, tu vois, comment mieux consommer, d'impact environnemental. Bah, on fait des posts qui sont effectivement envoyés des deux côtés.
Ça, c'est un pilier de contenu à part entière qui est réparti sur, ouais, sur les deux comptes.
Ouais. Exactement, mais par contre, quand on va parler de la co-création sur une robe, bah, on ne le fait pas sur le compte homme.
D'accord. Et là, tu as la même équipe de community manager ou alors tu as le luxe de pouvoir avoir des personnes différentes qui...
On a essayé plusieurs choses aussi. Au départ, on voulait quand même se donner justement un peu la liberté sur la femme de voir s'il fallait que le ton soit très différent, que le type de contenu soit très différent, que le stylisme photo soit très différent. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a un peu essuyé les plates, c'est qu'on a testé des choses sur la femme pour... Et finalement, tu vois, et on en est très content, le tone of voice homme-femme, c'est le même. C'est la même DA image. C'est les mêmes types de posts qui fonctionnent bien des deux côtés. Donc, on a essayé. Donc, au début, on avait effectivement deux équipes un peu dédiées. Maintenant, c'est une seule et même équipe qui travaille sur les deux.
Ok, allez, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de TikTok, William? Parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec Asphalt sur TikTok. Je vous y êtes, il y a un compte qui a été créé il y a quelques temps, il y a du monde dessus, hein, il y a 40 000 abonnés, si je dis pas de bêtises, mais il n'y a plus rien depuis quelques mois, qu'est-ce qui se passe?
Écoute, ouais, on a lancé TikTok il y a 18 mois, je pense. La stratégie qu'on a adoptée, c'était de recruter quelqu'un qui allait savoir le faire. Et ça s'est très bien passé d'un point de vue, bah justement, tu vois, perf organique, ça a vraiment super bien fonctionné. Il se trouve que ça coûte de l'argent, hein, tout simplement, que pour l'instant, ça n'en rapporte pas. Et que du coup, là, on est en phase de réflexion sur comment internaliser notre stratégie TikTok pour pas que ça nous coûte effectivement trop d'argent. Donc c'est la raison pour laquelle tu vois on a mis un petit stop à TikTok, mais pas plus tard qu'il y a 2-3 heures là, on avait justement un meeting avec l'équipe marketing pour commencer à poser les jalons d'une nouvelle stratégie TikTok avec des contenus plutôt fait in-house. Donc voilà, donc on va revenir plus fort que jamais, mais là on est en pause.
Alors, moi, du coup, je profite de l'occasion parce que TikTok, on le sait, ça fonctionne très différemment d'ailleurs, et notamment en raison de l'algorithme basé sur la logique de centre d'intérêt communautaire. Et du coup, je me pose la question pour une marque. Quand j'ai une marque de sap comme Asphalt, c'est quoi le centre d'intérêt communautaire que je peux choper? Parce qu'après tout, je vendais, tu vois, je suis pas comme Beijing Clean que j'ai reçu ici, un clean talker qui fait du nettoyage, centre d'intérêt nettoyage, ou je suis pas un traveler qui fait du voyage. Là, je fais de la sap. Comment ça marche? Est-ce que ça peut marcher ces nouveaux algorithmes de centre d'intérêt communautaire? Et est-ce que ramener par exemple à Instagram, vous sentez un impact aujourd'hui? Vous êtes chahuté ou pas du tout?
Écoute, alors très honnêtement, je suis pas ultra technique sur le sujet TikTok, donc je suis pas sûr d'avoir des tu vois une réponse hyper hyper intéressante. Tout ce que je peux dire, c'est que la stratégie qu'on a eue sur TikTok, nous, c'était une stratégie de dire on sait que l'audience va être quand même plus jeune que notre audience de base, et la stratégie, c'était la personne qui va incarner et faire les contenus, c'est un grand frère qui te donne des conseils pour mieux t'habiller, pour mieux comprendre la fringue, pour mieux entretenir tes vêtements.
Centre d'intérêt. Donc brand utility, quoi.
Ouais, exactement, tu vois. Et ouais, donc, c'est des contenus assez pratiques, assez éducatifs. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, c'est un bon axe. On a une autre série de contenus sur Instagram qui s'appelle les tips du care. Donc, le care, c'est notre équipe service après-vente. Et donc, c'est les tips, justement, pour mieux entretenir tes vêtements. Et ça marche très bien sur Instagram. Donc, tu vois, c'est le type de série qu'on pourrait complètement dupliquer sur TikTok. Et c'est sans doute ce qu'on fera.
Ok, pigé. Allez, est-ce qu'on partirait pas un petit peu sur le sujet SMA parce qu'Asphalt, c'est forcément une marque direct to customer. Ouais. Et le sujet de l'acquisition, eh ben, c'est un gros sujet, forcément. Ouais. Et de ce côté, vous avez une grosse expertise SMA. Je suis allé jeter un coup d'œil dans la Facebook Ads Library. C'est public, tout le monde peut y aller. Allez jeter un petit coup d'œil, vous aussi, de temps en temps. Ouais. C'est instructif. Et au moment où on se parlait bien, il y a 180 publicité qui tourne simultanément sur Facebook et Instagram. Hein. Et j'ai vu notamment des très belles stratégies d'AB testing bien bossées. C'est franchement du lourd, c'est très bien ficelé. Est-ce que ces campagnes, elles sont pilotées en interne ?
Ouais, elles sont pilotées en interne. Écoute, effectivement, l'acquisition, c'est ultra important. Et en fait, il faut réaliser à quel point c'est important, c'est que quand on est une marque digitale, en fait, l'acquisition, c'est la distribution d'une marque classique. Une marque classique, à l'époque, H&M, la manière dont ils se développaient, c'est ils achètent du trafic en achetant des pas de porte, des boutiques. Tu achètes une boutique sur les champs, tu t'achètes un trafic de 500 000 par an ou 5 millions par an, je sais pas. Et ben, à l'ère digitale, effectivement, la manière d'acheter du trafic, c'est pas ouvrir une boutique sur les champs, c'est dépenser de l'argent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et tout. Donc, en fait, l'acquisition, c'est la distribution. Donc, c'est central. Si demain, on arrête de faire de l'acquisition, c'est comme si H&M fermait toutes ses boutiques. Je le dis parce que l'acquisition est parfois perçue comme « Attends, mais la marque jette son argent par les fenêtres, etc. » Non, en fait, c'est comme si, encore une fois, on disait que H&M balance l'argent par ses fenêtres en payant des loyers pour ses boutiques. C'est pareil. Donc, effectivement, c'est la distribution et donc c'est central. Tu vois, pour moi, H&M va pas s'amuser à filer sa stratégie de distribution en externe à une agence. Donc, je pense que pour une marque digitale, filer sa stratégie d'acquisition à une agence, je suis pas certain que ce soit la meilleure stratégie. Ça marche pour certains, mais en tout cas, c'est pas la conviction qu'on a depuis le début. Donc, depuis le début, on l'internalise. Et donc voilà, on a aujourd'hui deux personnes qui travaillent quasi full time là-dessus. C'est central et effectivement ça fait 6 ans qu'on le fait, donc on s'est vachement amélioré, beaucoup d'AB testing comme tu le dis, ça implique aussi pas mal de travail pour l'équipe marketing qui crée les contenus, mais voilà, donc c'est un gros boulot, mais c'est normal, c'est le cœur du réacteur.
Et à ce propos, j'ai vu il y a à peu près une semaine, hein, vous avez fait un post très transparent où vous expliquez justement votre forte présence publicitaire sur le réseau. C'est pas souvent hein, qu'on entend les marques s'exprimer sur ce point. Je trouve que c'est marrant parce que c'est un peu l'ingrédient mystère qu'on veut pas trop avouer en général. Oui, on fait du publicitaire, mais on le dit pas. Le but du poste, c'est pour pousser l'idée du parrainage. Voilà, en gros, je peux gagner 30 euros si je parraine une amie ou un pote chez Asphalt, hein, c'est ça. Est-ce que toi, tu penses que c'est une des réponses qui peut permettre de se passer de méta à l'avenir ou pas ?
Ouais, clairement, ça peut, tu vois. Il y a peu de boîtes 100% e-commerce qui ont réussi à se développer sans faire de l'acquise. Il y en a une qui s'appelle VP. Et qui a craqué le parrainage très tôt. Alors c'est un autre monde, hein. On est au début des années 2000, mais je sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois hein, qu'ils ont toujours pas dépensé un seul euro sur Meta ou Google. Donc écoute, je pense que c'est possible de remplacer complètement. Ça paraît compliqué, tu vois, mais en tout cas c'est un levier qui existe et qui est une bonne alternative. Ouais.
Et toi, t'as l'impression que les choses se durcissent aujourd'hui du côté du publicitaire sur Meta. Alors, on le sait, Meta, c'est un réacteur extrêmement puissant. Ouais. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que ça coûte plus cher, qu'il y a plus de monde, que ça coûte plus cher, que c'est plus compliqué de traquer, d'analyser, et que du coup, les dépenses sont un petit peu à la hausse. Est-ce que vous, ça a un impact de votre côté ?
Ouais, bien sûr. Écoute, c'est sûr que les coups d'ac est un des trucs les plus inflationnistes au monde. Donc c'est le cas pour nous aussi. Franchement, on a réussi à pas mal les maîtriser, surtout en 2022. En fait, on a maîtrisé le CAC en 2022 et il s'est stabilisé par rapport à 2021. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est particulièrement en 2022 que les marques ont vu leur coups d'ac exploser. On a réussi à compenser ça parce que, on a réussi à stabiliser, ouais, les notamment le ROS parce qu'on a pas mal augmenté les paniers moyens. Mais oui, c'est un problème pour une marque 100% digitale et ça fait partie des raisons pour lesquelles justement On se doit de faire de plus en plus de tests d'omnicanalité, que ce soit faire monter le parrainage, que ce soit faire un peu de retail, faire un peu de télé, puisqu'on a fait notre premier test télé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc c'est un problème de fond pour toute l'industrie. Pour l'instant, on est touché, mais pas à un niveau inquiétant. Mais il faut anticiper effectivement le futur parce que ça peut être problématique. Ouais.
Allez, William, je sais que tu as des engagements, donc tu as un timing devant toi. Je voudrais te poser la question piège qu'on nous pose tout le temps et que je pose du coup à tous mes invités. C'est quoi, selon toi, le ROI des réseaux sociaux, William ?
Le ROI des réseaux sociaux ? Tu parles d'organique ou de paid ?
Ah bah, comme tu veux, je te laisse répondre. Peut-être des deux. Hein.
Écoute, non, mais ma réponse, elle va être simple. Sur le paid, c'est vraiment, pour le coup, là, c'est de la data pure. Hein, c'est effectivement de la distribution, de l'acquisition. Ça se pilote chez nous. On a des très bons ROI sur le paid depuis toujours et c'est grâce au paid qu'on est passé de 0 à 20 millions en 6 ans. Donc c'est vraiment encore aujourd'hui, même si c'est un peu moins le cas, mais encore aujourd'hui, quand on a des bons contenus, un bon produit, un bon product market fit, c'est un super moyen de grossir vite, quoi.
Donc ça, c'est le paid. Et puis pour l'organique, tout ce qui est top of funnel, c'est quoi le ROI ?
L'organique, c'est plus compliqué là. C'est plus compliqué et effectivement, le ROI, il est très faible. Honnêtement, en tout cas, il est très dur à traquer. Ce qui est certain, c'est que quand tu regardes le trafic généré par l'organique, Insta, Facebook et tout, t'as juste envie d'arrêter de faire de l'organique, tu vois. Mais on sait que voilà, c'est aussi un moyen de toucher, de faire de la rétention, de rappeler aux gens qui nous follow notre existence. Et aussi de faire justement des prises de parole qui sont plus des prises de parole brand. Et au début, on avait sur le social organique une stratégie très regardez, il y a ce produit qui sort, achetez-le d'une certaine manière. Et maintenant, on a un peu de posts comme ça, mais en réalité, on a surtout des posts qui sont aidez-nous à co-créer. Voilà comment faire pour mieux consommer, voilà comment faire pour mieux entretenir son vêtement. Donc, on essaye d'avoir une stratégie qui crée un lien et qui raconte des choses intéressantes. On n'est pas en train d'essayer de vendre de la cam sur le social organique.
Merci. Elle est difficile, cette question. Hein. C'est vraiment la question piège. William, c'est quoi les prochains gros projets pour la marque Asphalt hein, dont tu peux peut-être nous parler ici ?
Bah, le gros truc... Alors, là, dans 2 semaines, pile quasiment, on ouvre notre premier pop-up store à Paris qui va durer 2 mois. Donc ça, c'est un gros truc. Ça va être super.
Donc là, ça se passe comment pour une marque justement qui fait tout en précommande on peut quand même faire un pop-up et acheter des choses sur place ?
Ouais, en réalité, depuis le tout début, on a un modèle donc qui est en fait 90% de nos volumes, on les vend en précommande et on vend quand même 10% de nos volumes en stock. En fait, t'es obligé d'avoir du stock dans un modèle de précommande parce que quand t'as prévendu 1000 jeans, nous on en surproduit 50 ou 100 pour garantir les échanges de taille. Tu vois, si t'attends 2 mois pour jean et qu'il n'est pas la bonne taille et que j'ai pas la taille sous la main pour te la renvoyer, là, t'es perdu, t'es un client perdu ad vitam, tu vois, la déception est trop forte. Et en plus de ça, sur les 1000 qui ont été prévendus, en réalité, nous, on va en récupérer à nouveau peut-être 50 ou 100 qui sont des jeans qui ont pas convenu au client parce que la morphologie n'était pas bonne. Enfin, tu vois, t'as un taux de retour qui est incompressible. Donc, en fait, tu te retrouves à la fin avec 100, 150 jeans en stock, et nous, on les vend, cette fois-ci, livrés en 3-4 jours, et on les vend 30% plus cher. Donc, on est vraiment dans un modèle complètement inverse à l'industrie, c'est-à-dire que nous, ce qui nous reste sur les bras, on le vend plus cher. Donc, depuis le début, on a ce modèle-là. Donc, dans notre boutique, tu vas retrouver des articles en précommande et des articles en stock, de la même manière que sur notre site, temps en temps, on fait de la précommande, temps en temps, on fait du stock.
Donc, grosse ouverture, là, de ce pop-up sur Paris.
Ouais, et voilà. Sinon, bah, hier, je le disais, on a lancé notre premier jean femme. Gros carton et super produit. J'invite toutes vos auditrices à aller jeter un coup d'œil. Sinon, à plus moyen long terme, en gros, les deux gros enjeux pour nous, réellement, c'est la femme et l'international. Même si on n'oublie pas nos clients hommes en France. Sur la femme, on est qu'au tout début de l'histoire. Ça fait 18 mois, on a créé une quinzaine de produits. Un vestiaire complet propre, c'est 80-100 références, donc on a encore une grosse marche à passer. Et puis l'international, on est en Allemagne depuis 18 mois, fait quasiment 15% du chiffre d'affaires de l'homme en Allemagne. Ça marche vraiment bien, on a des clients hyper hyper fidèles en Allemagne. Si ça marche bien en France et en Allemagne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs dans le monde. Donc voilà, l'enjeu aussi pour Asphalt, c'est de montrer qu'on est une marque globale.
Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, William, si on a envie de parler avec toi? C'est où le meilleur endroit pour aller échanger avec William d'Asphalt?
Bon, c'est LinkedIn.
LinkedIn, ok. Allez, on met en note de cet épisode. Vous irez saluer William de notre part, lui dire que vous avez écouté cet épisode-là. Un grand merci à toi, William.
Merci.
On aura plaisir la prochaine fois que tu passes sur Lyon. Si un jour tu fais un pop-up sur Lyon, tiens,
ça arrivera sans doute un jour.
Eh bien, on aura grand plaisir à t'accueillir. Merci pour ton temps. Merci à toi. Chers amis, vous avez écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas à balancer les 5 étoiles. Vous connaissez le principe. Nous mettre une petite note sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Et puis surtout, partagez cet épisode à un pote. Ça peut-être le nourrir. Merci à vous tous et je vous souhaite à tous une très, très belle journée.
Merci beaucoup.